BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Happy Boulot, le mag. Au programme de cet épisode, on va parler du spatial. Nous aurons un entretien exclusif avec Liliane Sébastien, qui est la DRH du CNES, le Centre d'études spatiales. On parlera des métiers évidemment qui font rêver, mais aussi de tout l'écosystème de cette belle institution française. Ensuite, le sujet, ce sera la diversité, ou plutôt les diversités. On zoomera sur le secteur de la tech, qui n'est pourtant pas dans l'esprit collectif un endroit particulièrement plein de diversité, mais on relèvera quelques bonnes pratiques avec Anthony Babkin, le fondateur de Diversity Days, et un gros investisseur, Benoît Grossman, qui est membre du comité exécutif d'Euraseo. Et puis pour finir, on parlera de souveraineté numérique. Quels outils existent déjà et sont déjà au service des entreprises pour un petit peu plus de souveraineté? Vous verrez, la solution, c'est pas forcément le 100% français, mais c'est un panaché de solutions française, américaine et d'ailleurs.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Notre invité pour démarrer notre émission, c'est une DRH dans un univers qui fait rêver. Nous sommes avec Liliane Sébastien. Bonjour Liliane.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes la directrice des ressources humaines du CNES, du Centre National d'Études Spatiales. Et on peut le dire, l'espace est à l'actualité et particulièrement les astronautes français. Alors avec vous, on va zoomer un petit peu sur votre entreprise, le CNES. Et pour démarrer, je voudrais vous demander, est-ce que vous rêviez de travailler dans le spatial quand vous étiez petite?
Non, ça c'est le rêve de ma fille, mais c'est pas le mien. Non, mon rêve était clairement de travailler dans les relations humaines. Il s'avère que ça a été une magnifique opportunité d'entrer au CNES, en commençant par la Guyane. Donc voilà, c'était vraiment les relations humaines. Et ensuite, le CNES est devenu un rêve en lui-même, parce que c'est vraiment l'occasion de faire des ressources humaines comme on peut rarement le faire dans d'autres entreprises.
Alors, est-ce que le CNES est une entreprise comme les autres? Décrivez-nous un petit peu ce centre d'études.
Alors, une
entreprise... Fierté française?
Oui. Entreprise comme les autres, je pense que oui. Et non. Une entreprise, alors, un établissement public d'abord, industriel et commercial. Ça, c'est un peu la présentation institutionnelle. Donc, un établissement, effectivement, qui a une mission de service public qui est particulière, puisque c'est effectivement développer l'écosystème spatial et l'ingénierie spatiale. Donc, effectivement, on ne vient pas tous les jours au CNES, ou en tout cas dans ce type d'entreprise, avec un sens au travail qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître ailleurs, avec des missions longues parfois.
Dans longues comment?
Un projet peut faire 20 ans, c'est de moins en moins
c'est
le cas.
C'est inouï dans l'industrie. Avant, on avait le TGV ou le Concorde, mais...
Voilà, mais on est sur des projets long terme, en tout cas dans leur opérationnalité. Et puis, une entreprise comme les autres, parce que ce sont 2500 personnes, hommes et femmes, qui sont au quotidien au CNES avec les mêmes problématiques que les autres salariés et selon les régions.
Parlez-nous justement des régions. Où est physiquement implanté le CNES?
Alors, d'abord, en région parisienne, nous avons deux établissements, donc le siège, qui est à Paris-Les-Halles, et puis tout ce qui est autour de la conception des lanceurs et de la préparation du futur, qui est à Doménil. Un centre le plus important en termes d'effectifs, qui est à Toulouse, où on sera plutôt sur les objets, donc le satellite et les projets scientifiques. Et enfin, un dernier centre qui est en Guyane, où on est sur la base spatiale.
Alors, parlez-nous de vos principales missions en tant que directrice des ressources humaines de cette entreprise publique. Sur quoi vous travaillez?
Alors, moi, j'ai envie de dire que je suis, j'ai la chance d'avoir la cerise sur le gâteau en tant que DRH. On est dans un univers où on prépare les compétences de demain. Donc ça, c'est le premier. Alors, très facilement... Pas nécessairement qui font rêver, mais la data, les sujets autour du numérique, très concrètement préparer les profils de demain. Préparer les profils de demain, ce ne sont pas uniquement des profils techniques, ce sont avant tout des soft skills. Donc adaptabilité, agilité, c'est des mots qu'on entend régulièrement. Mais nous, on a un souci, en tout cas, on a une préoccupation côté RH qui est comment préparer la compétence autour de l'intelligence collective? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que de travailler ensemble, de collaborer, de construire ensemble une œuvre et de coopérer? Donc ça, c'est très important. Et un deuxième sujet pour nous, compte tenu de l'évolution de notre écosystème avec des start-up, etc., d'avoir un esprit d'intrapreneuriat. Mm-hmm. C'est-à-dire que finalement, on va aller récupérer les compétences qu'ont les entrepreneurs à l'extérieur, les réintégrer en interne pour créer de la créativité et de l'innovation.
Alors vous avez un avantage par rapport à beaucoup d'autres entreprises, c'est qu'on imagine que le CNES est quand même beaucoup associé au sens. Ça veut dire quelque chose quand même d'aller travailler dans le spatial, avec des profils scientifiques, mais pas que. Est-ce que vous avez des problèmes d'engagement ? Est-ce que vous avez des problèmes de rétention, j'allais dire, comme les autres ?
Alors, non, pendant très longtemps, ça ne veut pas dire que ça ne nous arrivera pas. Mm. Pendant très longtemps, on surfe encore sur... d'ailleurs, on avait un leitmotiv qui était « Les gens du CNES sont passionnés ». Il faut faire attention à ce qu'on dit, mais c'est vrai que les personnes qui intègrent le CNES souvent ont des parcours liés au spatial. Je pense aux jeunes qui viennent de Supaéro. Ils ont choisi ce domaine. C'est véritablement un sujet qu'ils ont depuis tout petit. Donc, on n'a pas souci d'engagement. Il n'en demeure pas moins qu'on arrive à un moment où le marché se tend, où l'appel des sirènes est important et d'autres entreprises peuvent venir aussi chercher nos propres jeunes. Je pense à des sujets comme la qualité, etc., où certaines entreprises peuvent être intéressées par nos parcours. Donc, on a un savoir-faire sur qu'est-ce que ça veut dire que de fidéliser et d'être attractif auprès de nos jeunes populations. Pour autant, on doit poursuivre nos efforts à l'avenir parce qu'on sent bien que les générations qui arrivent ne sont pas nécessairement dans les mêmes attentes que les générations que nous avons aujourd'hui avec nous. Donc vous me demandiez ce que c'était que le métier de DRH, mais c'est aussi énormément, en tout cas au CNES, être à l'écoute de ces générations qui arrivent, de leurs attentes en termes d'évolution de carrière, de parcours, de construction de parcours, pour pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles.
Les personnes qui portent votre entreprise, les stars, les influenceurs du CNES, c'est notamment, on en parle beaucoup en ce moment, c'est Sophie Adonneau. Pas facile d'avoir des stars pour représenter son entreprise. Parfois, on oublie que ces stars, ce sont d'abord des scientifiques. Mmh. Comment on évangélise les métiers scientifiques ? Vous disiez tout à l'heure, c'est pas très sexy, mais la data, on en a besoin. Comment vous participez à dédramatiser justement la science et le numérique ?
Alors, je pense qu'on a une mission...
Auprès du grand public.
Auprès du grand public. Hein. Je pense que faire... Enfin, et c'est le lien que je vais faire avec le grand public. Faire des RH au CNES... c'est faire des RH depuis, avec les enfants. Ça démarre très tôt. C'est-à-dire qu'on porte, et ça c'est collectif, on a vraiment des salariés qui se sentent engagés et ambassadeurs sur ces questions-là, mais on va chercher à tout prix à vulgariser la science, à être au plus près du terrain, dans les régions, dans les écoles. Par exemple, aujourd'hui, on a à peu près plus de 400 000 jeunes qui sont sur des projets avec nous d'éducation liés au spatial. On a plus de 2 000 enseignants qui ont été formés à certaines de nos activités. Donc, on va valoriser tout ça très près du terrain pour créer cette envie d'aller vers les sciences. Et on se rend compte que plus on est présent tôt, plus on va susciter l'envie et plus on va créer des vocations. Donc en fait, en bout de chaîne, quand finalement nous, on arrive avec des jeunes sortis d'école, d'école d'ingénieurs, etc., c'est tout ce travail en amont qui a été mené et qui nous amène ces populations. Petit point important, je pense que sur cette campagne d'astronautes, si je ne dis pas de bêtises, on avait à peu près 106 candidats français pour 1 million de Français. C'est énorme par rapport à d'autres pays européens où on est à 20-30. Donc on voit bien qu'on a cette culture du spatial qui irrigue un peu partout.
L'espace est partout dans nos vies, on ne s'en rend pas compte. Mais quels sont les métiers au CNES auxquels on ne pense pas et peut-être sur lesquels vous avez besoin d'évangéliser un peu ? Peut-être que vous avez des métiers pénuriques ou pas assez visibles. Est-ce qu'on peut relayer votre parole aujourd'hui ?
Des métiers pas assez visibles, là vous mettez une colle. J'ai le sentiment qu'on n'a pas trop de difficultés à trouver. On reste très attractif parce que c'est ce que vous avez dit. On est sur un secteur qui fait rêver. On a de beaux ambassadeurs. J'ai envie de dire qu'il nous faut encore des gens, effectivement, dans les sciences, dans certaines sciences, fonction des projets. Mon petit message, peut-être, ce sera plus de femmes. Plus de femmes. On voit bien que les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, manquent encore de jeunes femmes. Et ça, c'est une vraie difficulté que de travailler la mixité. C'est avant tout des métiers. On est à 37% de femmes. C'est encore trop peu. Pour ce genre d'activité, et plus on aura de la diversité et plus on aura de la créativité. Donc voilà, j'ai presque envie de dire on touche à plein de métiers parce qu'on est sur un secteur qui va de bout en bout depuis le moment où on va être sur de la science et de l'exploration jusqu'au moment où on va industrialiser des produits. Mais il nous faut sur tous ces métiers d'ingénieurs très ouverts et de différents domaines plus de jeunes femmes.
C'est une transition parfaite, Liliane. Je vous remercie parce que notre prochain sujet, justement, ce sera la diversité, ou j'ai envie de dire les diversités au travail. On va zoomer sur le secteur de la tech. Je vous remercie, Liliane Sebas, d'avoir partagé avec nous votre vie quotidienne de DRH au CNES. Et puis, vous avez entendu, plus de femmes et puis le temps long. Ça aussi, c'est important.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Nous allons maintenant parler de diversité, diversité au pluriel, avec deux personnes. La première, c'est Anthony Babkin. Bonjour Anthony.
Bonjour Lorraine.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Diversity Days, une association française d'égalité des chances dans le numérique. Et nous sommes avec un investisseur, Benoît Grossman. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité exécutif d'Euraseo. Vous êtes particulièrement en charge de ce qu'on appelle du venture et du growth. Avec vous, on va zoomer, vous l'aurez compris, sur la tech. On va se demander si le secteur de la technologie en France a des bonnes pratiques à partager avec nous en termes de diversité en entreprise. Alors d'abord, Anthony, petit exercice de définition. Qu'est-ce que c'est là, les diversités ?
Oh, une définition complexe, parce que chacun a la sienne. En revanche, si on reste dans le cadre de l'entreprise, moi j'aime bien rappeler qu'il y a 25 critères aujourd'hui de discrimination en France. Ça peut être lié à son origine sociale, géographique, ethnique, culturelle, on peut en ajouter d'autres. L'âge, le genre en font partie. Et donc finalement, c'est comment en fait cette diversité est quelque chose qui, au boulot, est vécu comme quelque chose de positif, donc qui inclut et qui n'exclut pas, parce que la différence de l'inclusion, c'est l'exclusion. Donc j'aime bien poser ces deux mots pour rappeler aussi ce qu'est une politique d'inclusion, et c'est de faire en sorte que aujourd'hui, à minima, l'entreprise ne soit pas discriminante et discriminatoire, et encore plus qu'elle inclue ces diversités-là. Ça veut dire proactivement, est-ce qu'on est sûr qu'il y a une équité salariale entre les hommes et les femmes ? Est-ce qu'on est sûr pour une personne en situation de handicap qu'elle a toutes ses chances et que son emploi est accessible ? Est-ce qu'on fait en sorte qu'aujourd'hui, parce qu'on est identifié comme une personne LGBTQIA+, on ne va pas être discriminé sur la base de ses orientations. Voilà, c'est tout ce que l'entreprise va faire proactivement pour que la personne se sente à sa place et bien dans son job.
Benoît, vous êtes à la tête d'un énorme fonds d'investissement. Vous avez plus de 30 milliards sous gestion, 500 entreprises dans votre portefeuille. Qu'est-ce que c'est la diversité dans votre portefeuille chez Euraseo ?
La diversité, elle doit s'exercer à deux niveaux dans nos boîtes sous-jacentes, hein, nos 500 portfolios compagnies auxquelles vous faisiez allusion, et également dans nos équipes d'investissement. Parce qu'il faut savoir que ceux qui choisissent les portfolios compagnies, donc les boîtes sous-jacentes, ce sont les équipes d'investissement. Donc la diversité, elle commence déjà dans nos équipes d'investissement. Et là, je dois dire qu'on ne fait pas très fort. On a du boulot à rattraper et qui doit également, bien sûr, s'appliquer dans nos sociétés du portefeuille. Et également, il y a beaucoup de boulot encore à faire. Je crois qu'on est plutôt parmi les bons élèves chez Euraseo, mais il reste encore beaucoup à faire. De toute façon, c'est un combat sans fin. On n'est jamais satisfait.
Alors, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent vont nous dire, mais pourquoi zoomer sur la tech dans beaucoup d'esprits, les start-up, les scale-up, c'est incarné par des jeunes gens, plutôt des hommes, plutôt des gens issus des grandes écoles, plutôt jeunes. Est-ce que c'est vraiment ça, la tech ?
Le portrait robot aujourd'hui, on le sait, c'est plutôt un homme blanc, plutôt grande école, CSP+, parisien, ou grande ville, je pourrais ajouter plein de critères. Et plutôt que de construire par opposition, on a fait une étude avec l'association Diversity Days et nos partenaires, en l'occurrence, et PwC, pour montrer finalement qu'est-ce qui bloque. D'où viennent les blocages et comment on se retrouve avec un écosystème French Tech qui est très endogame, où on va retrouver en effet beaucoup d'hommes, l'absence de femmes qui est très notable depuis des années, mais surtout lorsqu'on rentre dans la question des diversités avec un grand S, c'est des femmes de couleur, des femmes en situation de handicap, des personnes qui sont de plus de 30 ans ou 35 ans. Donc on a remarqué quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, déjà, le portrait robot de l'entrepreneur qui vient souvent un peu des mêmes écoles fait que on assiste à une espèce de reproduction des élites ou reproduction de classe avec des gens qui vont recruter dans leurs mêmes écoles, qui vont coopter. Évidemment, on est au début de sa boîte, on veut aller vite, on recrute des gens qui nous ressemblent. C'est peut-être ce que ferait n'importe quel entrepreneur. Mais le moment venu où l'entreprise grandit, où elle lève des fonds, eh bien, en fait, elle est contrainte en rien à recruter un peu différemment et à recruter des gens de son territoire ou à faire un peu différemment de ce qu'elle a pu faire au départ. Et il y a un chiffre qui a été marquant dans cette étude, c'est 39%. 39% des salariés des startups ont déjà vécu une discrimination à l'embauche. C'est-à-dire qu'on est presque à un collaborateur sur deux qui a rejoint cet écosystème qui nous dit « j'ai vécu des discriminations ». Donc moi j'aime bien montrer du doigt ce paradoxe qu'il y a dans la tech. C'est d'un côté on nous parle beaucoup de pénurie de talents, c'est 80 000 talents manquants en 2019 et ça n'a fait qu'évoluer, on parle de 200 000 là, récemment. Donc les boîtes veulent recruter. Et de l'autre, bah, c'est ces discriminations qui font qu'on a beaucoup de gens qui s'auto-censurent, qui ne vont plus vers ce domaine parce qu'ils considèrent... Alors, c'est les deux critères évoqués, l'âge et le niveau de diplôme.
C'est les deux premiers freins.
C'est les deux freins à identifier, ce qui peut se comprendre aisément. On a plus de 45, on arrive dans un écosystème où la moyenne d'âge, c'est entre 20 et 30 ans.
Je rappelle qu'on est senior à Pôle emploi à 45 ans.
Exactement. La seniorité commence trop tôt en France et on ne sait plus reconnaître, on va dire, les expertises, les expériences après 45 ans, considérant que vous n'avez plus l'âge, vous êtes has-been, vous n'avez plus le temps. Enfin, peu importe, j'ai entendu des choses dans l'écosystème tech parfois qui m'ont rendu dingue. Donc, plutôt que de se plaindre, on a créé un mouvement qui s'appelle Take Your Place pour aider les boîtes et avec le soutien des fonds pour aller plus loin, pour permettre à des gens différents de rentrer dans cet écosystème.
Benoît, parlons business d'un point de vue d'investisseur. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup de pousser la diversité ? Financièrement, parlons vraiment matériellement, qu'est-ce que ça change d'avoir des équipes diversifiées ?
Alors déjà, je crois qu'il y a des statistiques qui ont montré que les sociétés qui étaient plus diverses performaient beaucoup mieux, parce que la diversité, c'est une source de richesse, c'est une banalité ce que j'ai dit, mais c'est toujours bien de le dire. Et je crois qu'une des plus grandes freins aujourd'hui, c'est la culture du jeunisme qui existe dans nos startups. C'est juste effrayant, on dit autrement, la moyenne d'âge, elle est toujours capée par l'âge du CEO. Alors sachant que le CEO, donc le fondateur, ils sont bien sûr de plus en plus jeunes, donc ça donne un espèce de cap. Et moi, je suis surpris, on n'est même pas senior à partir de 45 ans. À 35 ans, beaucoup de gens ont du mal à se retrouver dans l'environnement startup. Et moi, juste pour une petite anecdote, c'est important les anecdotes, je faisais la réflexion, il n'y a pas si longtemps que ça, un fondateur de startup auquel je disais, ça serait bien d'embaucher un peu des gens un peu plus seniors. Il m'a répondu, l'expérience, c'est l'intelligence des cons. Il faut quand même la sortir, celle-là. Voilà.
Vous avez mis des billes, hein, cette boîte ?
Non. Voilà. Et la culture du jeunisme, il faut absolument lutter contre ça, parce que ça exclut une grande partie de la population, bien sûr, qui est tout à fait capable de travailler dans cet environnement. Et cette culture jeunisme est assez effrayante. Alors, en plus, il y a la culture des diplômes. Moi, je dis toujours, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre du numérique qui dit que les fondateurs de start-up, ce sont des mâles blancs qui ont grandi rive gauche et qui ont fait leurs études à Joulin-Josas. Joulin-Josas, c'est une ville très agréable. Mais
c'est le siège d'HEC, précisons pour.
Oui, note de la rédaction. Voilà.
Alors, bon, c'est terrible ce que vous dites, mais je suis sûre que ceux qui nous écoutent se reconnaissent. Sans être cliché, qu'est-ce qu'on pourrait évangéliser comme bonne pratique ? Soyons concrets, dans vous, tout ce que vous avez vu depuis 2017, Anthony, qu'est-ce qui peut être fait pour augmenter cette diversité concrètement, sans bullshit, sans être dans les clichés.
Mais merci déjà de commencer par ce morceau-là, parce qu'à chaque fois, on se dit quelles sont les solutions, parce que le constat maintenant, on le fait tous. Il y a maintenant 2 ans, avec la Fondation Mosaïque, on s'est dit, allions nos forces pour aider des talents très divers à aller vers ces métiers-là, et surtout pour accompagner ces boîtes qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas pris en main ces pratiques de diversité et d'inclusion. Et donc, c'est en cela qu'on a créé le mouvement Take Your Place, donc avec le soutien des fonds. 12 fonds nous ont apporté leur soutien récemment en prenant des engagements concrets. Take Your Place, c'est quoi ? Je le vois un peu comme une espèce de grosse boîte à outils. En fait, on y adhère pendant un an. Donc, on est une boîte tech, on est un fonds, on est une entreprise tech en pleine croissance ou au tout début. Et l'objectif, c'est, pendant ces un an d'adhésion, plein de choses. La première, faire un bilan. C'est-à-dire un bilan chiffré, ce qu'on appelle, nous, une empreinte diversité, avec des plateformes comme Mixity ou MeNewTo, qui sont des plateformes avec lesquelles on travaille. L'objectif, c'est poser un constat de départ, comme un mini-audit. Où est-ce qu'on en est sur nos enjeux de diversité et inclusion ? À quoi ressemble notre entreprise ? Qu'est-ce qui manque dans notre boîte ? Deuxième chose, changer les pratiques en formant abondamment les gens. Il faut former les managers, il faut former les intermédiaires, il faut former le top exécutif aussi. Reposer le cadre réglementaire, c'est quoi l'égalité femmes-hommes, et surtout qu'on a réussi à faire évoluer le cadre réglementaire.
Oui, il commence à y avoir pas mal d'outils dans la boîte à outils, en fait.
Exactement, hein, ouais. Et le Next 40 French Tech 120 s'est doté de nouveaux critères, donc ça c'est un super point fort de notre action. Le Next 40 et French Tech 120, pour en faire partie, maintenant, n'importe quelle boîte devra faire son empreinte, donc l'index égalité femmes-hommes, et devra aussi remplir des critères de diversité et d'inclusion. Donc, on mesure, on forme, on passe à l'action aussi avec des experts qui sont recommandés par notre réseau Take Your Place, et ensuite, on rencontre des candidats différents. Sur la base de critères sociaux, comme sait très bien le faire Mosaïque, en ayant des talents des quartiers aux zones rurales, ou en travaillant, par exemple, avec une plateforme, nous, comme Hello Handicap, donc qui est une plateforme de recrutement avec plein de talents en situation de handicap. L'objectif, c'est ouvrir les vannes. Et surtout, si on ne le fait pas en changeant pas un peu les règles du jeu, ça ne fonctionnera pas.
Benoît, un mot peut-être pour conclure. Dans l'univers du capital risque, dans l'univers du VC, on voit quand même plus de femmes. Est-ce que vous avez une note positive sur laquelle conclure? On sait, les réseaux d'entrepreneurs, on le voit à BFM Business, tous nos start-upers, ils sont tous dans des groupes WhatsApp où il n'y a que des hommes dedans. Quand on voit les fonds qui font des dîners à Paris, en semaine, c'est souvent que des jeunes gens, des hommes. Est-ce que néanmoins, on peut dire qu'au moins côté diversité homme-femme, ça va un peu mieux par rapport au début de la French Tech, par rapport au début de France Digital où vous avez aussi un rôle?
Oui, alors on est parti de très 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 bas, donc on a plus qu'à améliorer. Alors ça prend toujours un petit peu de temps, on ne va pas passer à la gender parity parfaite 50-50 quand on partait d'un 1% à 99. Donc le 50-50, il ne faut pas se voler la face, ça prend un certain temps. Mais je crois que ce qui est important, c'est le chemin pour y arriver. Comme on dit, la dérivée est importante et on est dans le bon chemin. Et puis je crois que beaucoup de fonds ont fait beaucoup de progrès. Toujours pareil, on mesure également. C'est une charte qui avait été lancée il y a quelques années, Sista, c'est de promouvoir l'égalité homme-femme au niveau de l'entrepreneuriat. On a fait beaucoup de progrès, il reste encore beaucoup à faire. On est très fiers, chez Razo, c'est toujours un sujet qui nous a beaucoup préoccupés. Et voilà, on va continuer dans ce sens-là. Mais...
Pour conclure, comment les médias, on peut un peu mieux porter cette parole justement?
Les médias, prendre des engagements, je pense que la mesure, on en parle aujourd'hui, c'est le sommet de l'inclusion en même temps que cette émission. Beaucoup de dirigeants et dirigeantes parlent de mesurer, donc il y a plein de données qui sont accessibles pour l'employeur, le recruteur. Où est-ce qu'on en est? C'est quoi notre degré de maturité? Et comment, après avoir pris des actions, on voit que ça a évolué ou pas? Prendre le sujet plutôt à froid. Dernier point, moi j'aimerais appeler toutes ces boîtes tech qui nous écoutent ou ces fonds qui ont envie d'aller plus loin à rejoindre ce mouvement Take Your Place. J'en fais la pub parce que je considère que c'est un mouvement non-profit, qu'il corrige des choses, des billets qui sont là depuis trop longtemps dans les boîtes tech. Il faut que ça change. J'ai un chiffre à vous donner, c'est qu'aujourd'hui ça représente 10%. Le monde de la tech représente 10% des emplois en CDI. Donc si le futur de l'emploi, c'est la tech et les startups, il y a une responsabilité que chaque acteur doit jouer.
Voilà, les startups françaises, l'inclusion et la diversité. On a essayé de faire un petit tour d'horizon en 10 minutes. Merci beaucoup Anthony Babkin, fondateur de Diversity Days, et merci Benoît Grossman de Razéo et aussi de France Digital.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Le cas d'étude de cette semaine, c'est la souveraineté numérique. On en entend tous parler, mais est-ce qu'on sait la définir et surtout quels outils pour la pratiquer au quotidien? C'est le sujet de notre discussion avec Alain Garnier. Bonjour Alain.
Bonjour.
Fondateur de Jamespot, un outil 100% français qui permet de réseauter en entreprise. C'est ça ce que vous faites? Bien placé pour parler de souveraineté numérique. Vous venez de publier une étude sur cette souveraineté numérique. Assez édifiante. Donnez-nous deux chiffres pour la résumer.
Alors cette étude, c'est auprès des professionnels, ceux qui décident en fait sur l'IT, quels sont les outils qu'on met en place, des outils collaboratifs. Et alors ce qui sort de cette étude déjà, c'est que plus de 90% des gens sont concernés et trouvent ça très important. Ça c'est un premier chiffre. Après par contre, ils sont que la moitié à savoir ce que c'est. Donc c'est quoi vraiment la souveraineté et de pouvoir la définir de manière précise. Et puis ensuite, le troisième chose qui vient, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup plus équipés d'outils souverains qu'on imaginait. Un sur deux, 55% même, a un outil souverain en plus souvent d'une stack américaine.
Alors, rembobinons en arrière. Qu'est-ce que c'est la souveraineté numérique?
La souveraineté numérique, c'est le fait de pouvoir être indépendant et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour des questions à la fois stratégiques, techniques, d'usage, et d'avoir un système sur lequel on a un contrôle complet.
Ça veut dire, j'allume pas mon ordinateur chinois, je n'ouvre pas Google, je n'ouvre pas Microsoft, je n'ouvre pas Slack.
Alors, c'est plutôt, je prends différents systèmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir, par exemple, un ordi qui n'est pas chinois, quasiment. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Un ordi 100% français, ça n'existe pas, européen, quasiment pas. Voilà. Par contre, on peut ne pas mettre tous ces systèmes dans le même cloud et dans le même fournisseur. On peut ne pas mettre tous ces outils de collaboration dans le même fournisseur. Et il y a des boîtes aujourd'hui, en particulier des grandes boîtes, qui ont tout mis, tout, chez un seul fournisseur. Il suffit qu'il y ait un seul problème, quel qu'il soit, contractuel ou autre, ils ont des problèmes. Et point numéro 2, leurs données ne sont pas protégées. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un grand problème autour de la question des données aujourd'hui qui sont, avec les lois extraterritoriales, pas protégées quand ils sont en particulier chez les Américains ou chez les Chinois.
Ouais, dites-moi où sont vos données, je vous dirai à qui elles appartiennent. Ouais, alors vous disiez 50% finalement des entreprises sondées qui utilisent effectivement un ou des outils souverains. Donnez-nous des exemples d'outils souverains dans le quotidien de DSI, de décisionnaires IT et aussi peut-être plus généralement dans l'entreprise.
Le premier qui ressort dans la liste, dans les outils souverains qu'ils mettent en place, c'est les intranets. typiquement des outils comme ce qu'on fait nous d'ailleurs à Genspot. Hein. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les intranets fournis par les Américains ne sont pas toujours au top, alors qu'en fait, les Européens aiment bien le beau. C'est pas pour rien qu'on a la patrie du luxe et de tout ça.
Une belle
luxe. Et voilà. Et donc, on a aussi des capacités de fabriquer des magnifiques vitrines. Or, à un moment donné, quelqu'un qui fait de la com interne, il a besoin de faire du beau. La com RH aujourd'hui, c'est très important aussi pour l'onboarding des nouveaux. Il faut avoir des choses qui leur donnent envie. Et donc, c'est là où les outils un peu tristes, bah, en fait, ils passent pas. Donc là, ça, c'est par exemple un exemple typique de prendre pied dans la souveraineté sans être obligé d'abandonner sa fameuse suite américaine. Un point qui ressort aussi, c'est que les gens l'utilisent non pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles sont utilisées par tous. Donc c'est un effet vraiment tout simplement de « bon allez, je ne vais pas m'embêter, ouais. Les autres l'ont ça, comme ça si j'envoie un lien pour Microsoft, je n'aurai pas de risque, alors que si je prends autre chose, on va me dire « c'est quoi ?» Donc en fait, il y a aussi quelque chose de très grégaire. Et ça nous renvoie à l'Europe, c'est aussi des gens qui ont envie de faire les choses différemment. « Think different », disait Steve Jobs, ben on peut peut-être penser en dehors de la boîte. Et aujourd'hui, moi on le voit bien, les boîtes qui choisissent des outils qui ne soient pas que américains ont plus de créativité. Pourquoi ? Parce qu'ils donnent à leurs employés des outils dans le monde digital pour être... Ben, simplement...
Une autre boîte dans laquelle réfléchir.
Exactement.
Alors, pour conclure, un mot, votre étude, elle a sondé à la fois des entreprises public et privé. On aimerait, on souhaiterait, ça serait bien que les entreprises publiques soient le modèle. Dites-nous un truc bien que font les entreprises publiques qui n'est pas encore peut-être très courant dans les entreprises privées.
Alors, les entreprises publiques sont beaucoup plus, font appel au cloud dit souverain. Par exemple, en proportion, ils font plus appel à OVH, à Scaleway ou à Outscale. Il y a même une norme là, qui s'appelle Secnum Cloud sur laquelle ils vont être même en obligation. Le gouvernement a pris d'ailleurs même des engagements là-dessus. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, suite à une question d'un député, Microsoft 365 n'est plus autorisé à être déployé. Donc il faut voir que là, on est dans l'interdiction. On a passé un cran et le secteur public est en train de devenir exemplaire, comme son ministre d'ailleurs, qui a bien marqué souveraineté numérique dans son intitulé. Et d'ailleurs, je crois qu'il va dans le bon sens.
Voilà, des petites choses qui changent très concrètement, pas que des petites choses, voilà. Je vous renvoie vers cette étude qui est très intéressante et assez digeste, publiée donc par Jamespot et l'Institut Paul & Roll, disponible sur le site web de Jamespot. Et c'est la fin de cette émission. Je vous remercie Alain Garnier d'avoir été avec nous pour parler rapidement mais efficacement de souveraineté numérique. Je vous rappelle que cette émission est disponible, comme les précédentes, en vidéo à la demande sur notre site web, mais également en podcast sur l'ensemble des plateformes. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Happy Boulot, le mag.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.